Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM Plus 91 FM.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Nabet, musicien et musicothérapeute. C'est à travers l'apprentissage du saxophone que tu te passionnes pour la musique. Tu t'intéresses alors à la musicothérapie et à l'expérience chamanique, et c'est ainsi que tu découvres le lien entre le son et la matière. En 2004, tu crées le label musical Harmonie Musique, dédié aux musiques thérapeutiques basées sur le diapason 432 Hz et les gammes naturelles. Et tu es également le concepteur de l'harmonial, un outil de traitement du stress par le son, la couleur et les formes. Tu es aussi auteur et créateur de nombreux CD et DVD qu'on retrouve facilement sur Spotify, Deezer, YouTube. Et tu réalises également les premiers élixirs sonores sur le plan mondial, un outil puissant de rééquilibrage énergétique. Et enfin, tu enseignes depuis bientôt 10 ans la musicothérapie énergétique, méthode que tu as exercée pendant presque 3 ans. Franck Nabet, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà expliquer ce qu'est la musicothérapie et puis comment cela fonctionne ?
Alors, la musicothérapie, on entend parler depuis en gros presque 30 ans maintenant en France. Elle a été introduite par un monsieur qui s'appelle Jacques Jost. En fait, la musicothérapie traditionnelle s'effectue selon deux méthodes, qu'on appelle la musicothérapie active et réceptive. L'active, comme son nom l'indique, on est acteur, hein, donc on travaille sur quelque chose, par exemple des instruments, qui vont être un vecteur de communication. Et du coup aussi de trouver notre place à travers un jeu de percussion, de trouver aussi sa place dans un système rythmique et trouver une cohésion justement dans tout un ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle communément la musicothérapie active. Ensuite, il y a la réceptive qui passe, elle, plus par un système émotionnel, tout ce qui est la relation liée à l'émotion. Donc là, on utilise la musique comme un vecteur entre le thérapeute et celui qui est thérapié. Et la musique va permettre d'être l'outil de communication et faire ressortir des émotions, puisqu'on sait que la musique est très inductive d'émotions. Eh bien, parce qu'on a aussi tout un référentiel émotionnel et musical qui sont associés. Donc du coup, à travers ce que l'on écoute, on peut découvrir, ou à travers aussi une écoute particulière, on peut découvrir certaines zones émotionnelles qui vont être touchées et qui vont amener justement à verbaliser. Et à travers cette verbalisation, le musicothérapeute va faire un travail de classification. Depuis maintenant 10 ans, moi j'ai développé ce que j'ai appelé la musicothérapie énergétique, qui est pour moi l'évolution de cette musicothérapie traditionnelle. En fait, toutes ces méthodes qu'on a jusqu'à présent, l'intérêt, on le voit, il est très limité, puisqu'on considère l'individu uniquement dans ce qu'il pense, et très modestement dans ce qu'il a comme action. Et en fait, on oublie une grande dimension de l'individu, c'est tout ce qui est sa dimension physique et puis aussi énergétique. Parce que en ayant travaillé justement avec le monde chamanique, je me suis rendu compte qu'il y avait cette dimension-là et il ne fallait pas la négliger non plus. Donc voilà, tout ce qui touche maintenant à la musicothérapie énergétique, c'est une méthode nouvelle qui s'inscrit dans les thérapies brèves, dans le sens où notre rôle d'accompagnant est de permettre à la personne de comprendre l'expérience qu'elle est venue vivre ici sur Terre, et ce qu'elle doit accomplir, ce qu'elle a choisi d'accomplir comme rôle et comme mission.
Et quel est ce lien dont tu parles entre le son et la matière ?
Alors, le rôle entre le son et la matière, c'est quelque chose de très 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 simple et très complexe à la fois, parce que le son, il a besoin de matière pour exister. Hein. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de possibilité sonore. Et la matière, elle a besoin de son parce que le son va lui donner une forme. En fait, la matière va être agencée par le son. Donc on voit qu'il y a une grosse interaction entre le son et la matière. Donc voilà la première des bases, je dirais, de cette relation entre le son et la matière. Mais il y en a plein d'autres. On sait aujourd'hui, par exemple, en utilisant la mémoire de l'eau, que c'est ce que nous avons utilisé, par exemple, sur les élixirs, ben, cette mémoire de l'eau, elle conserve une information vibratoire. Donc la matière conserve une information vibratoire. Donc là, on voit bien le lien entre la matière et le son. L'eau conserve cette information et elle est capable de la restituer à l'eau qui est à l'intérieur du corps.
Donc, finalement, matière issue du son donc, est issue d'une vibration, finalement.
Alors, c'est ce que disent toutes les traditions. Tu sais, dans les traditions anciennes, quelles qu'elles soient, par exemple, chez nous, dans l'Ancien Testament, on dit « au commencement était le Verbe ». Alors, on oublie la deuxième phrase qui est aussi importante, puisqu'on dit « et le Verbe se fit chair ». Ça, c'est important parce qu'on comprend justement que le premier son, en fait, il est pensé. Un musicien, quand il va créer un son, il va le penser. Donc, voilà, au commencement était le Verbe. Ben oui, on a pensé à quelque chose. Mais ensuite, effectivement, il se fit chair et il devient de la matière. Donc le son amène effectivement à la matière, puisque c'est lui qui donne une forme à la matière, et la structure. Par exemple, on peut regarder les formules de Calny, qui était un physicien au XVIIIe, qui se faisait résonner des morceaux de sable sur une plaque de métal, et en fonction de la vitesse avec laquelle il vibrait son archet sur cette plaque, il y avait une forme qui se mettait en place. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est que dans d'autres traditions, par exemple en Inde, on parle du son primordial, ou même chez les Tibétains, on parle du son Om, qui est le son primordial, le son de la création. Bon, chez nous aussi, dans l'explication scientifique, on parle d'un Big Bang, et qui dit Big Bang dit forcément une explosion sonore. On voit mal une explosion avec un tel potentiel sans son. Et voilà, chez la tradition hindouiste, on parle effectivement des trois divinités qui sont tous rattachés à une syllabe, A-U-M, qui donne le Om, Aum, qui est rattaché à Vishnu, Brahma et Shiva, les trois divinités, les trois piliers de la création. On en reparlera tout à l'heure aussi, parce que ça, on les retrouve aussi dans la gamme musicale occidentale, etc., etc. Donc on voit bien effectivement que le son, à l'origine, il y a un son originel. Et c'est même en partant de cette hypothèse-là que j'ai développé, moi, toute la création des élixirs, parce que je me suis dit, mais tiens donc, si le monde s'est créé à partir d'une fréquence, comme ça a l'air d'être le cas, est-ce que nous ne sommes pas nés aussi autour d'une fréquence ?
Alors, dans les différents sons, il y a aussi différentes, je vais appeler ça des mesures, parce que je ne connais pas les termes exacts, mais est-ce que tu peux nous parler du 432 Hz et des gammes naturelles ? Est-ce que ce sont des diapasons thérapeutiques ?
Alors, déjà, il faut savoir que dans la musique, il y a trois caractéristiques qui sont importantes, ce qu'on appelle le rythme, la mélodie et l'harmonie. Le rythme va nous donner une certaine structure. Et cette structure, elle est en relation avec le corps physique. Je ne vais pas développer ici, ce n'est pas le sujet, mais de développer le lien qui existe entre le corps physique et le rythme. Si ce n'est que, pour simplifier les choses, je vais simplement expliquer qu'à l'intérieur du corps, tout est rythmique. On parle d'ailleurs de rythmes circadiens, qui sont les rythmes de fonctionnement au niveau cellulaire, où on a des, par exemple, à 2 heures, on a une meilleure énergie pour mener des actions. Voilà. Etc., etc. Donc on a fait plein d'études là-dessus scientifiques pour montrer que ben, c'est à cette heure-là qu'on est meilleur, qu'on a une meilleure acuité visuelle, par exemple. Parce que c'est lié à des rythmes cellulaires. Voilà. Donc ça, le rythme, c'est la dimension du corps. Ensuite, il y a la dimension de la mélodie, qui elle est très rattachée à la dimension psychologique, puisque la mélodie, elle nous ramène à notre mémoire musicale émotionnelle. Donc l'association que j'ai fait entre suite de notes et émotion. Et je stocke depuis que je suis dans le ventre de maman tout un tas d'informations qui va se structurer autour de cette banque. Je vais formaliser une banque sonore et émotionnelle en même temps. Voilà. Troisième élément qui est très important, c'est l'harmonie, qui est peut-être la chose la plus complexe à appréhender, même pour les musiciens, parce qu'on a du mal à réellement comprendre ce qu'est l'harmonie. En fait, l'harmonie, dans le langage populaire, je dis toujours, il y a une belle formulation pour expliquer ça. C'est quand on rencontre quelqu'un sans avoir même échangé quoi que ce soit, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on dit, on est là sur la même longueur d'onde. Voilà. Ça, c'est un phénomène harmonique. En musique, bien sûr, cette harmonie, elle est gérée par deux éléments qui sont importants. Ce qu'on appelle effectivement le diapason et ensuite les gammes musicales. Voilà, qui sont donc deux choses totalement séparées. Aujourd'hui, on parle beaucoup des histoires de diapason et c'est tant mieux parce que en 1956, il y a une normalisation de la musique, on ne sait pas trop pourquoi. Les Américains et les Anglais, les grands gagnants de la guerre, ont décidé de normaliser la musique. Il y a sans doute des raisons, mais je ne voudrais pas rentrer dans une polémique non plus là-dessus. C'est pas mon débat. Mais voilà, toujours est-il qu'effectivement, on a normalisé la musique. Et quand on rapproche ça d'une phrase de Socrate qui disait, ou de Lao Tzu, puisqu'il a repris à Lao Tzu, Socrate, en fait, quand on veut dominer un peuple, il n'a qu'à dominer sa musique. Et là, on comprend peut-être effectivement pourquoi il y a eu ce changement de diapason. Quel était l'intérêt de changer ce diapason ? Aujourd'hui, ça m'est vraiment difficile de répondre à ces questions parce qu'il faudrait faire de grosses études avec beaucoup de moyens pour réellement comprendre. Mais à travers la peu d'expérience que j'ai de cet étalage de diapason, je me suis rendu compte que en fait, celui qu'on utilise actuellement va plutôt travailler sur toute notre sphère psychologique. Voilà, donc toutes les informations arrivent au cerveau. Il faut savoir que notre oreille, contrairement à ce qui se passe au niveau visuel, quand on ne veut pas voir quelque chose, on ferme les yeux. Mais au niveau de l'oreille, il n'y a pas cette possibilité-là. Ce qui veut dire que quand un son arrive dans nos oreilles, il est tout de suite directement analysé par notre cerveau. Ce n'est qu'effectivement lorsqu'il y a un phénomène, de reproduction, que notre cerveau va décliner cette information. Mais elle arrivera quand même. Voilà. Et ça, on s'est rendu compte, par exemple, que les gens qui vivaient au bord du périphérique à Paris souffraient énormément de troubles du sommeil parce que leur cerveau était constamment en état de fonctionnement du fait du bruit auquel ils étaient soumis. Donc, il n'y avait pas de phase de sommeil paradoxale qui permettait de dormir. Voilà, donc ça, c'est une grande compréhension, hein, de comprendre pourquoi, sans doute, on a changé ce diapason. Et quel est l'intérêt ? Ensuite, nous, on a pris le parti de travailler sur un diapason qui est très très différent. En faisant quelques recherches au niveau musical, on est tombé un jour sur des instruments amérindiens, une flûte notamment, qui était exposée dans un musée navarro. Et quand j'ai commencé à voir une réplique de cette flûte, elle ne sonnait plus du tout avec mes instruments occidentaux. Alors on a cherché un peu, puis on est tombé sur ce fameux diapason de 432. Tout ça, ça nous a amené à des recherches, et puis on a vu que c'était le diapason de Verdi, qui était toute l'école italienne était un grand défenseur de ce diapason. Et puis tout ça, ça m'a amené à des connaissances aussi au niveau de la mathématique, parce que, en fait, comme les anciens le disaient, et surtout les écoles égyptiennes, la structure importante, c'est la structure du 9. Là, on a une structure parfaite. Alors, la parfaite, c'est dans le 10, hein, souvent c'est ce qu'on dit, mais avant qu'il y ait le 10, la finalisation de cette structure, c'est le 9. Et donc, dans toute la construction égyptienne, on retrouve ce 9. Et donc, forcément, dans la musique aussi également. Puisque la musique a été aussi une grande élaboration des Égyptiens. Et même Pythagore, qui est à l'origine des premières gammes musicales, il s'est fortement laissé influencer par les Égyptiens. Donc voilà, donc, très simplement, ce diapason 432, il a une grande influence sur les informations que contient la musique et va les amener au niveau de notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand les informations arrivent au niveau du cœur ? Notre cœur est très sélectif, il sait ce qui est bon pour lui. Et si ça ne vibre pas avec lui, il va le rejeter. Il ne va pas faire comme notre cerveau qui, lui, n'a pas de capacité à se fermer. Voilà. C'est la grande différence entre les deux moyens. Alors c'est vrai qu'on trouve beaucoup de sujets de polémiques sur ces histoires de diapason sur Internet. Je crois qu'il faut aller au-delà de tout ça. Il ne faut pas ni alimenter ni l'un ni l'autre. Mais il y a une chose qui est très importante, il faut comprendre que notre structure espace-temps, aujourd'hui, elle est sur une harmonique du diapason 432. Pourquoi ? Parce que quand on prend notre structure temporelle, qui est ramenée à une seconde, si on la ramène à une heure, ça fait 3600 secondes, et quand on regarde le format d'une demi-journée, donc 12 heures, on tombe sur 43 200 secondes. Donc voilà, l'apparition du 432, elle est même dans notre espace temporel. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est une découverte aussi importante. Et puis, il y en a plein d'autres aussi, parce que quand on s'intéresse aux sciences un peu ésotériques, on se rend compte que dans la Bible, par exemple, on cite le nom de la bête, 6 fois 6 fois 6, le 6, 6, 6, ben si on fait 6 fois 6 fois 6, on tombe sur 216. Et si on élève cette somme à l'octave supérieure, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2, on tombe sur 432. Ce qui veut dire que le chiffre de la bête, c'est notre état primaire. Et 432 nous ramène à la dimension, là encore, du cœur. On le voit bien, même dans la mathématique, hein, puisque une fois qu'on est plus dans cette, on est sorti de cet état de bête, on devient quelque part humain, parce qu'on va fonctionner avec notre cœur. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont... C'est de la mathématique, bien sûr. Les gens me disent, mais tu peux dire ce que tu veux avec les... Et tu fais dire ce que tu veux aux chiffres. Mais il y a une réalité fondamentale. Il ne faut pas oublier que la musique, c'est de la mathématique dans le vivant.
Oui, il y a de la mathématique et puis il y a de la spiritualité aussi, quand même, dans tout ça. On retrouve d'ailleurs dans chacun de tes CD des sonorités donc très différentes. Chacun d'entre eux est vraiment authentique. On est à chaque fois bercé, enfin moi en tout cas, hein, je suis à chaque fois bercé, hein, entre la flûte, le tambour. Il y a même un album qui est dédié aux plantes, qui est absolument extraordinaire. Est-ce que ce sont tes expériences chamaniques qui t'inspirent à chaque création?
Alors c'est sûr qu'on peut pas dénigrer ce qu'on est, hein, ces expériences chamaniques ont fait une partie intégrante de mon existence. J'ai suivi une formation pendant 12 ans avec des chamans amérindiens, donc voilà, avec un chaman ici aussi en France, et puis aussi avec des chamans de Sibérie. Donc tout ça fait qu'effectivement, je peux difficilement dissocier cette expérience-là de mon expérience de vie. Hein. Donc, et quand on sait que la création, elle est juste qu'une manifestation de ce que nous sommes. Hein. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'avais une grande discussion avec un ami qui est scientifique. Il s'appelle Philippe Bobola, que j'aime beaucoup. Et voilà, on parlait justement de la notion d'art et quelle était l'importance de l'art dans une société. Et il me disait quelque chose de très très juste. Il dit, on se rend compte du déclin d'une société quand on observe l'art qu'elle crée. Et quand on voit effectivement aujourd'hui que nous, on est plutôt dans l'art contemporain, hein, de l'art très individualiste, et bien, c'est plus un art qui rassemble, qui révèle. Et on le voit dans ces peuples premiers, ben, toute cette manifestation artistique, elle était fondatrice de la société, et de leur monde, de leur culture. Il y avait des musiques, par exemple, pour manger, pour célébrer le mariage, la mort, les moissons, enfin tous les rythmes saisonniers. Et voilà, lorsque moi je commence une création, ben, j'essaye de revenir un peu à cette dimension aussi, je dirais quelque part originelle, de se dire, ben voilà, il y a un thème dans cet album, et à chaque fois il y a un thème. Chaque CD, c'est un thème, c'est voilà, il y a toute une histoire qui se raconte, et c'est cette histoire-là qui est importante, parce que c'est ça qui plaît aussi aux gens. C'est ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai l'impression que je leur raconte des histoires et que quelque part ils me disent, c'est mon histoire, Franck, que tu me racontes.
C'est beau. On va justement écouter un passage de ton dernier album qui s'intitule Tambour Esprit. Donc on écoute ça tout de suite. Des sonorités qui nous transportent toujours un petit peu plus, Franck Nabet. Il y a alors donc le son, forme de vibration, et puis il y a aussi les élixirs. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été développé jusqu'à présent. Il y a des élixirs pour chaque note. Comment donc les élixirs nous aident au quotidien?
Alors les élixirs, c'est vraiment un outil assez incroyable. Bon, on a fait tester ça par une dame au CNRS justement pour montrer l'impact que ça avait au niveau du vivant, parce que expliquer aux gens qu'on a mis du son dans des bouteilles, déjà c'est quelque chose qui paraît complètement surréaliste, mais que là on leur dit effectivement que ça va leur faire du bien dans cette expérience terrestre, ils ont encore plus de doutes. Donc comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, faut comprendre qu'à l'intérieur de notre corps, il n'y a que des vibrations, hein, puisqu'on a dit tout à l'heure, le son et la matière sont très très proches, très liés, et on pourrait expliquer effectivement qu'un organe a ses propres fréquences en fonction de son état. Il change de note, il change de fréquence. Quand il est malade, ben, il descend, il chute. Et quand il est vraiment très très malade, à partir de cancer, ben, il n'y a plus du tout de fréquence dedans. Voilà. Donc ça, c'est une fois qu'on a compris ça, on commence maintenant un peu mieux à appréhender comment les élixirs vont fonctionner. C'est-à-dire que dans ces petites bouteilles, on a mis du son, on a utilisé dans la mémoire de l'eau. On a fait des grandes dilutions à l'alcool. Et le résultat de tout ça, c'est que l'eau qui est contenue à l'intérieur de ces flacons, lorsqu'on prend ces flacons dans les mains, va rentrer en résonance avec l'eau qui est à l'intérieur de notre corps. Et simplement le fait de les tenir en main permet déjà de créer un transfert d'informations de système aqueux. Aqueux, ça veut dire avec de l'eau, hein. Donc voilà, donc de l'eau qui est à l'intérieur du flacon jusque l'eau qui est dans le corps. Plus on va effectivement envoyer ces informations vibratoires au niveau de notre corps, et plus les cellules vont rentrer en résonance avec cette information. Si c'est la bonne information qui nous correspond, alors le corps va donner un accord tacite. Et il va dire effectivement ça, j'en ai besoin, et je le prends. Et puis si on n'en a pas besoin, ben, très vite, vous allez plus sentir cette information vibrer dans vos mains. Donc ça veut dire qu'il n'y en a plus besoin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est très, 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 très. Bah, très, très frappant, ça marche. C'est ça qui est le plus magique. Alors, après, il y a différentes gammes d'élixirs. On a ce qu'on appelle les synergies, qui travaillent sur les trois axes de la création, masculin, féminin et neutre. Donc, on a parlé tout à l'heure, effectivement, des trois divinités. Hein, de la tradition bouddhiste, bah, c'est pareil. Hein. En fait, il y en a une qui est masculine, féminine, et puis l'autre qui est presque androgyne. Voilà, puis, donc ça, c'est les trois grands principes de création. Ensuite, on a toutes les notes, les sept grandes familles d'âmes. Ça fait référence à tous les grands chercheurs qui ont commencé à s'intéresser justement à ces grandes familles, comme je pense à Alice Bailey, le docteur Bach, et puis aussi les sept blessures de l'âme, parce que tout ça est lié. Et dans chaque famille, il y a une blessure, etc., etc. Donc on a fait tout ce travail de rapprochement, même y compris avec l'énéagramme. Aujourd'hui, on est en train de regarder avec l'énéagramme, on est en train de regarder avec ce qui se passe avec l'astrologie, parce que je pense que ça peut être, la musique peut être une pierre angulaire de rassembler justement toutes ces techniques, hein, pour en faire donner un puzzle complet. Parce qu'aujourd'hui, on a l'astrologie d'un coin. Il faut savoir que les anciens, ben, quand ils fonctionnaient en astrologie, ils fonctionnaient aussi avec les mathématiques, ils fonctionnaient sur l'architecture, ils fonctionnaient la musique, bien sûr. Donc ils faisaient un tout. Et nous, on a tellement voulu devenir très pointu dans un domaine qu'on a tout séparé. Voilà. Mais il faut revenir maintenant qu'on a compris l'essence de chacun de ces domaines à quelque chose qui soit plus universel. Voilà, donc là on a les sept notes. Et puis on a une dernière gamme qu'on a sortie maintenant il y a 3 ans, qui sont la gamme des dièses, qui travaille sur tout ce qui est traumatique, donc toutes les souffrances de l'existence, hein, qu'elles soient sur le plan physique, bah tiens, on a eu un accident, aujourd'hui on a mal, il reste des cicatrices, il reste des blessures, le corps est marqué. Et la fréquence va permettre effectivement d'amener une désinformation de cette information qui restait dans la matière. Voilà. Et puis on va jusqu'au plan de l'âme, puisqu'on vient aussi guérir une blessure fondamentale qui est celle de notre famille d'âme. Hein.
Franck Nabet, le temps passe et on va écourter un petit peu notre interview, mais ça donnera l'occasion de se revoir pour continuer ça. On peut donc s'approprier en fait ces élixirs sonores sur ton site harmoniemusique.fr, ainsi que tes albums, tes DVD. Il y a aussi des images de géométrie sacrée, et puis il y a même des flûtes. Et puis bon, je tiens aussi à préciser que du coup, ces élixirs, il y a aussi ta chérie, Sophie, qui participe beaucoup, qui est très présente aussi pendant tes concerts, donc qui fabrique aussi les élixirs. Je pense que c'est aussi important de la nommer parce qu'elle est très présente.
C'est
Derrière chaque grand créateur, il y a une grande femme.
C'est derrière chaque grand homme, ou chaque homme. Mais ça marche pour les créateurs aussi. Donc voilà, donc je tenais quand même à la citer. Franck Nabet, donc merci infiniment. Aussi, pour retrouver les dates donc, de formation, c'est sur musicothérapie-énergétique.fr, parce que tu formes à la musicothérapie. Énergétique. Le prochain module commence sur Paris en octobre 2018 et au Pays Basque aussi en novembre. Donc vous retrouvez toutes les dates sur musicothérapie-énergétique.fr. Donc Franck Nabet, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le podcast comme d'habitude sur le site de la radio. C'était Sarah Robert pour Radio FM+.
Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM+, 91 FM.